Dominique Dérard, rappelez-moi, est-ce que nous avions encore des questions ce soir à parler d'hier? En tout cas, si je me souviens bien, nous avons terminé le premier texte où Maïmonide établit qu'il y a deux commandements dans les Tariats Mitzvot, dans les 613 commandements, l'un concernant l'amour et l'autre concernant la crainte de Dieu. Nous avons étudié cela hier, Ahava et Ira, Ira et Ahava, vous vous rappelez? Je ne vais pas revenir là-dessus, sauf une question qui était restée en suspens. Et si je me souviens bien, nous avons à peine commencé le deuxième texte. Bien, mais je voudrais quand même rappeler brièvement la problématique de la question, si j'ose dire, parce que c'est celle qui va nous occuper en deuxième partie du cours, et dans un texte que malheureusement vous n'avez qu'en tout petit caractère, et d'ailleurs je vais avoir besoin d'une loupe moi-même pour pouvoir le lire, et où il y a une controverse que le Réhem va susciter à partir de l'enseignement de Rashi contre Maïmonide. Et le Gour Arié va reprendre l'enseignement du Réhem pour faire une mise au point sur ce problème. Quel est le problème avant de voir l'analyse du texte? Bien, le problème est de savoir si la connaissance de Dieu, et nous aurons à définir ce que signifie cette expression. Hier, nous avons eu déjà d'ailleurs quelques mises au point avec à la suite de questions de Joël d'ailleurs à ce sujet. Et si la connaissance de Dieu peut être atteinte à travers la connaissance du monde, ou si elle ne peut être atteinte qu'à travers la connaissance de la Torah. Et d'ailleurs, dimanche, vous reprendrez ce même problème avec le Kli Yakar, avec Michel, de façon encore beaucoup plus large et beaucoup plus ample. Tout à l'heure, avant d'aborder donc le texte du Gour Arié et du Réhem, je demanderai à Michel de vous donner une brève introduction biographique et bibliographique, tant du Maharal que du Réhem, pour que vous sachiez quels sont ses auteurs. Mais pour le moment, pour la première partie de l'enseignement, je veux revenir donc à la lecture de ces deux textes qui me semblent fondamentaux chez Maïmonide. Et ça me permet en tout cas d'aborder un petit point de méthode. Vous voyez bien que Maïmonide finalement cite les deux thèses à la fois. Et que lorsqu'on cite Maïmonide en disant « Ah, Maïmonide est surtout ou exclusivement pour la connaissance de Dieu à travers la connaissance du monde » et non pas la connaissance de Dieu à travers la connaissance de la Torah, il y a là, si vous voulez, une citation un peu rudimentaire. C'est qu'on a pris une bribe de Maïmonide et puis on a projeté une option que l'on avait déjà avant la lecture. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute qu'il y a une question de dominante dans tel ou tel, je ne veux pas dire système, il n'y a pas de système d'enseignement dans le judaïsme, mais shita. Comment on traduira shita? Shita. Méthode d'enseignement, méthode d'exposition, si vous voulez. Il est évident qu'il y a une certaine dominante d'un côté ou de l'autre. Mais vous rappelez bien que dans les deux textes, que nous allons revoir à la lecture, d'une part, Maïmonide met au même niveau, même si dans un enseignement beaucoup plus fin, beaucoup plus analytique, nous savons qu'il y a une différence de niveau entre la médiation de l'amour et la médiation de la crainte, comme connaissance de la présence de Dieu, c'était l'analyse d'hier, peut-être ce serait nécessaire d'y revenir, mais ça c'est vous qui me le direz, malgré tout, comme l'enseigne le commentaire de Rashi, il y a une prééminence donnée à l'amour par rapport à la crainte, mais nous savons que les deux sont indispensables, et Maïmonide, en tant que législateur, nous donne ces deux mitzvot au même niveau, et en citant chaque fois deux versets. Il ne cite pas Aristote, comme vous voyez, il cite deux versets. Et puis, d'autre part, dans la même phrase, dans la même formule pratiquement, nous voyons qu'il indique que pour arriver à la connaissance de Dieu, il faut passer par la médiation d'une connaissance qui serait soit celle de sa création, soit celle de l'expression de sa volonté pour le comportement de sa création dans la Torah. Il me semble qu'il serait quand même nécessaire de rappeler la formule suivante. C'est que nous ne trouvons pas dans les sources juives l'idée d'une possibilité, d'une connaissance conceptuelle, intellectuelle, dans l'ordre de l'intelligible, comme on a l'habitude de dire, de Dieu, directement. Mais il y a une connaissance qui est de l'ordre de l'émotion et qui s'appelle amour et crainte. C'était l'essentiel de l'étude que nous avons eue hier. Encore une fois, il est évident que la tradition juive, biblique, hébraïque, ne va pas laisser cette émotion de l'amour et de la crainte qui ensemble font le sentiment religieux, lequel sentiment religieux n'est pas un sentiment spécifique à l'homme religieux. Et nous avons étudié ça d'autre part, lorsque nous avons étudié les textes du Talmud concernant les attitudes de la prière. Vous vous rappelez de cela peut-être, ceux qui ont étudié ce sujet, non ? Il y a longtemps. Peut-être qu'un jour on reprendrait cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sentiment religieux, il n'y a pas de terme d'ailleurs dans le vocabulaire traditionnel pour dire le sentiment religieux comme expérience spécifique que on éprouverait parce que l'on a une disposition par grâce ou autrement, ou qu'on n'éprouverait pas. Mais qu'il s'agit d'un sentiment universel et que les différentes sources que je ne vais pas citer, ce serait trop long, nous montrent comme étant toujours le mixte de deux sentiments opposés qui, lorsqu'ils sont expérimentés, vécus en même temps, font apparaître la situation du devant Dieu. Et ici, c'est amour et crainte à la fois. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces deux commandements. Parce que l'expérience de la présence à Dieu, est, qu'elle soit atteinte à travers l'étude de la Torah, l'évidence qu'il y a, puisque la Torah est un existant, et si je comprends la Torah, si je connais la Torah, alors je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a donnée. Bon. Et de même, le monde est un existant, et si je comprends le monde, alors je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est effectivement l'expérience qu'on appellera en français, donc l'expérience religieuse élémentaire. Et cette expérience de présence à Dieu, eh bien, a deux dimensions. C'est simultané d'ailleurs, mais que nous expérimentons chacune pour elle-même, la dimension de proximité absolue, du devant de laquelle il y a l'expérience de l'éloignement absolu, ou l'inverse, suivant le tempérament de l'homme, qui commence ainsi ou autrement. C'est-à-dire, pour certains, c'est d'abord l'éloignement qui est perçu, et donc, pour que le sentiment religieux soit authentique, il faut y intégrer l'expérience de la proximité, ou réciproquement, ou inversement. Et puis très très brièvement, le vocabulaire philosophique qui correspond, c'est d'une part la transcendance et d'autre part l'immanence, bien entendu. Eh bien, et malgré tout, cette expérience, elle est universelle. C'est-à-dire n'importe quel homme peut éprouver ce qui est dit ici en propre terme, ahava et amour et crainte. Je ne reviens pas sur les analyses, on pourrait faire une phénoménologie qui prendrait énormément de bibliothèques, si j'ose dire, sur ces principes. Mais chacun la fera pour lui-même. Mais il est bien évident que ces deux expériences, ces deux émotions, et il s'agit de connaissances à travers ces émotions. Là, je vous cite le Rav Kook de façon très précise. Ahava, l'amour, ira, la crainte, c'est la manière dont dispose l'homme pour connaître Dieu. Il ne s'agit pas premièrement d'une connaissance intellectuelle qui serait spéculative. Mais et donc, cette expérience est universelle. Il n'y a pas de grâce particulière. Il suffit d'être homme pour être capable d'expérimenter ces deux dimensions de la proximité et de l'éloignement de l'absolu. Et donc, tout homme peut être dans ce cas. Seulement, l'histoire, l'expérience montre que tous les paganismes sont possibles. J'ai dit paganisme plutôt qu'idolâtrie, mais enfin, ça va dans le même sens. Toutes les expériences païennes sont possibles. Si on laisse le comportement de l'émotion à l'état brut, non épuré, non contrôlé, et par quoi ? Précisément cette fois, par une connaissance intellectuelle qui va servir de filtre, de filtre d'épuration de l'émotion brute. Mais le contenu même du processus, du comportement de connaissance est psychologique, c'est une émotion. C'est de l'ordre de la sensibilité, et donc inévitablement, il aura une dimension d'esthétique. Il y a un verset qui est toujours cité à propos de ce problème, « Ze Eli Vernveu ». C'est mon Dieu, alors il faut que je me fasse beau pour lui. Inévitablement, ça va ensemble. Et ça sera le rôle d'ailleurs du culte dans le temple. vous verrez tous les textes qui en parlent, il y a accumulation de termes qui signifient la beauté, la magnificence, le chavod, le tifaret, les vêtements du grand prêtre, les dimensions d'eux, enfin, la beauté qui s'attache à cette émotion, parce que c'est dans le même ordre de régime. Et là, et voilà où nous arrivons à notre problème, il s'agit de savoir si cette bina, ce discernement, qui seul peut, qui est lui intellectuel, connaissance, limoud, et qui seul peut authentifier la connaissance par l'émotion, s'il s'agit de la connaissance de Dieu à travers ses œuvres dans le monde, ou s'il s'agit de la connaissance de Dieu à travers l'étude de la Torah. Voilà le point que je pense qu'il est suffisamment simplifié de notre problème. Et nous verrons, j'espère y arriver assez rapidement encore aujourd'hui, donc nous reprendrons cette question avec Michel dimanche, que, en réalité, ce n'est pas ou bien, il y a les deux sources dans Maïmonide, mais qu'il y a une hiérarchie de valeurs du procédé, si j'ose dire. Qu'on ne peut pas, opposer un Maïmonide, d'une part, qui dirait comment atteindre l'amour et la crainte de Dieu, c'est uniquement par l'étude de la Torah, ou d'autre part, opposer un autre Maïmonide qui dirait comment atteindre l'amour et la crainte de Dieu, c'est uniquement par l'étude du monde, des sciences. Puisque nous voyons qu'il dit les deux choses à la fois, mais qu'il y a un accent de domine. Voilà l'exposé du problème que nous allons étudier, surtout avec le Kourarié et le Réhem. Je résume en deux phrases et demie. La connaissance de Dieu, c'est amour et crainte, parce qu'il n'y a pas a priori de connaissance par les idées, par les concepts de qui est Dieu. Et puis, cette connaissance par amour et crainte, elle doit être, à son tour, authentifiée par une étude où là, l'intelligence intervient. C'est quel est le monde que ce Dieu a créé, et par là, je devinerai qui il est. Quelle est la Torah qu'il nous a donnée, c'est-à-dire l'expression de sa loi pour la conduite humaine, et par là, je devinerai qui il est. Avec le grand mystère de l'identité d'Israël, et qui a été le canal, le véhicule de cette révélation dans l'histoire du monde. Bien. Alors avant d'aborder donc la lecture du deuxième texte de Maïmonide que vous avez dans la colonne de gauche dans votre texte, je vais reprendre sur une des questions qui s'était posée hier, lorsque nous parlions précisément du comportement de l'amour. Vous avez certainement, certains d'entre vous, étudié déjà ce problème. Il y a une forme grammaticale différente lorsque le commandement d'amour porte sur Dieu ou porte sur quiconque d'autre, autrui, dans le monde. Les versets, vous les connaissez. Ve'ahavta. Ils sont écrits. Ve'ahavta. Et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu. Ah, c'est le verset que nous avons dans notre texte. Mais quelle est la forme grammaticale? C'est celle de ce qu'on appellera en grammaire l'accusatif, enfin le transitif, je ne sais plus comment on dit justement, le complément d'objet. Vous voyez, ce « et » indique que l'objet du verbe est relié par ce que nous appelons, si vous voulez, l'accusatif. Je veux dire, c'est l'objet naturel de l'amour, c'est toujours Dieu, quel que soit l'être aimé. En réalité, il y a un seul objet de l'amour, c'est Dieu lui-même. Ce qu'indique le « et » de ce verset. « Ve'ahavta et Hashem Elokecha ». Je vais essayer de paraphraser comme cela. En quoi que ce soit que tu aimes, c'est en fin de compte Dieu seul que tu aimes. Parce que sinon, il y aurait idolâtrie. Si, est-ce que c'est clair? C'était à propos de la question, est-ce que l'amour peut être commandé? Vous voyez que l'amour serait une donnée naturelle, et que le commandement ici vient informer la forme du comportement. Quand tu aimeras, voilà comment tu aimeras. De telle sorte que ce soit authentique. Mais là, je vais plus loin dans cette note. La relation d'amour dans le sens de son objet naturel ne peut aller qu'à Dieu, de quoi il y aurait idolâtrie. Et pourtant, il nous est commandé l'amour du prochain, par exemple. Et pas seulement l'amour du prochain, le respect de toute création, de toute créature. Qui, ce sont des mitzvot, que je n'énumérerai pas, par exemple, quand même, un exemple, Baltacherit, on n'a pas le droit d'arracher pour rien une feuille d'un arbre. C'est donc une application à un certain niveau du commandement du respect de la créature. Vous connaissez ce commandement, Baltacherit. Ou bien, ou même si vous avez un papier qui peut encore servir, et le fait de le jeter à la poubelle est considéré comme une faute pour le Shulchan Aruch. Et alors, c'est pas tellement gaspillage, mais le fait d'avoir détruit quelque chose qui existe pour rien. C'est la négation de l'existence du Créateur. Et alors, la forme grammaticale va changer. Et pour l'amour du prochain, il y a Ve'ahavta, Le'ere'acha, Kamocha. Bien sûr, le sens est approximativement le même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisqu'on peut dire en hébreu, aimer se dit ahov et ou ahov el le pour. Okay? Regardez, il y a quand même une nuance très importante. Je voudrais dire comme ça. Ve'ahavta, et ça veut dire toujours ve'ahavta et Hashem Elokecha. Mais cet amour-là, tu as l'obligation de le faire passer par ton prochain. Et d'ailleurs, la fin du verset, c'est Ani Hashem Elokecha. On oublie toujours, la plupart du temps. Ve'ahavta le'ra'acha kamocha, Ani Hashem Elokecha. Vous voyez donc l'articulation du problème. Et effectivement, nous voyons que toujours, pour l'amour et pour la crainte, Ira et Ahava, le commandement d'objet, c'est toujours Dieu. Le Ira est Hashem Elokecha. Le Ahava est Hashem Elokecha. Et que pour quiconque autre que Dieu, Yahô se dit mais avec mais Yahô et non pas avec et. Yahô, mais avoir peur de quelqu'un. Mais avoir peur de Dieu se dit Yahô et et non pas Yahô mais. Je dis ça un peu pour les hébraïsants, mais vous voyez qu'il y a une différence. Et j'en arrive aux exceptions. Et ici, Yahô et c'est pour Dieu, Yahô le c'est quand ça passe par quelqu'un d'autre. Yahô et c'est pour Dieu. Yahô mais quand j'ai peur de quoi que ce soit d'autre dans le monde. Et alors, il y a deux exceptions dans la. Où nous voyons que Yahô et s'adresse à quelqu'un d'autre que Dieu. L'exception, c'est Ve'ahavta et Hager, l'amour de ce prochain particulier qui est l'étranger. Et finalement, la halakha établit qu'il s'agit du converti. Il y a obligation de deux commandements d'amour pour le converti, d'abord parce que c'est un homme, et deuxièmement parce qu'il est converti. Il y a Ve'ahavta le'acha, kamocha, qui doit s'appliquer à lui, et en plus Ve'ahavta et Hager. Et la Gemara Maïmonide aussi, d'ailleurs, dit que Dieu a partagé l'amour qui revient qu'à lui seul avec l'étranger. C'est un thème pour lui-même qu'on pourrait analyser. Il y a une autre exception pour Yahô. C'est quand quelqu'un a peur de quelque chose d'autre que Dieu, ou de quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, mais s'exprime avec cette expression. Et je veux dire quel a été l'exemple historique. Vous vous rappelez quand Shaoul, le premier roi d'Israël, avait reçu l'obligation de détruire Amalek. Amalek est la société humaine d'où sortent les ennemis absolus d'Israël. Et puis voilà, on n'a jamais le courage de détruire Amalek, alors nous les avons, ces Amalécites-là, jusqu'à la fin des temps. Bon. Et vous voyez la gravité du problème. Ce n'est pas le sujet, je vais très rapidement. Et alors, Shaoul a donc livré la guerre contre les Amalécites, mais il a laissé vivre le roi, qui s'appelait Agag, okay? D'où qui va être, d'où Aman va descendre. Et Aman est toute la suite. Okay? Et alors, lorsqu'il se justifie devant Shmuel, qui va le destituer comme roi, parce que, alors, il dit qu'il y a reti et haam. Il dit pas, il y a reti mais haam, j'ai eu peur du peuple. Mais il dit, il s'agissait du peuple juif, enfin hébreu, du peuple hébreu, il disait, non, quand même, fais pas ça, le roi au moins laisse-le vivre. Et puis invite-le à Paris. Mais il dit, Yareti et Ha'am, et non pas Yareti Meharam. Vous avez compris la différence. Il a eu peur du peuple comme on a peur de Dieu. Et c'était ça sa faute. Oui, parce que dans toutes les exceptions apparentes, il n'y a pas d'exception. La règle joue jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que l'amour pour Dieu, il y a et, la crainte de Dieu, il y a et, l'amour pour le prochain, il y a lamed, et la crainte du prochain, il y a même. Et il n'y a pas d'exception. Vous verrez, chaque fois que vous aurez une exception apparente, il faut l'étudier dans le sens de ce, dans le sens de ce principe. Il y a d'autres contextes qu'on pourrait voir, mais c'est un tout autre sujet. Voilà. Alors, je crois qu'ici, la définition de l'importance de la connaissance du monde ou de l'importance de la connaissance de la Torah, ce n'est pas tellement pour nous donner, bien que cela puisse être un procédé pédagogique, pour nous donner l'amour de Dieu, mais pour l'authentifier. Et il est nécessaire que je connaisse la Torah en tant qu'expression de la volonté du Dieu que j'aime et que je crains, pour ne pas être idolâtre. Et au fond, c'est cela. De même qu'il est nécessaire, dans l'autre thèse, que je connaisse vraiment comment est le monde qu'il a créé, et non pas que j'ai un roman du monde qui s'appellerait « La science du scientisme », enfin, comment est vraiment la vraie connaissance du monde, de telle sorte qu'à travers elle, je puisse connaître qui a créé ce monde. Et nous voyons donc en quoi la connaissance, cette fois, va distinguer Israël des païens, mais l'émotion de base, qui est la connaissance directe qu'il y a Dieu, celle-là est commune à toute créature. Vous voyez que c'était donc important, je pense, de faire cette... Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons aborder tout de suite, donc en première partie, le deuxième texte de Maïmon. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point, je l'ai indiqué hier en lisant la traduction en français que vous avez là, à quel point il faut se méfier de réflexions et de spéculations sur des traductions de textes hébreux. Vous avez compris. Le texte français que vous avez là est très beau, mais il est absolument inutilisable. Je pense que c'est clair. Et alors, vous voyez à quel point de faux problèmes, de fausses questions, de malentendus viennent de ce qu'on n'emploie pas le vocabulaire qu'il faut pour parler des choses dont on veut parler la plupart du temps. Il y a ces petits glissements de concepts qui parfois sont intentionnels, mais très souvent sont de bonne foi et qui font que finalement... On ne sait pas de quoi on parle. Et vous voyez qu'on ne peut absolument pas aborder l'analyse que nous avons vue en partie, en tout cas, à travers le texte français. Alors, le texte français qui est une espèce de joli style, je ne sais pas comment dire, ce que notre maître appelait la bouillie sucrée, la farine lactée. Animé d'une passion extrême, il brûle de connaître ce Dieu sublime. Pampan, il n'y a plus de Kaddish. c'est clair. Bon, je tenais à être un petit peu méchant là-dessus, mais pour quand même, malgré tout, vous alerter à ce problème. Alors nous abordons donc, si vous voulez, le deuxième thème. Du Sefer HaMitzvot. HaMitzvah HaShelishit, la troisième mitzvah. Non. Vous l'avez là. Vous l'avez là, hein. Et ensuite, on verra ça.
Ça, c'est ça.
Alors, la mitzvah HaShelishit, la troisième mitzvah, le troisième commandement, dans l'ordre des commandements, que nous avons cette fois donc dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, c'est le commandement, l'ordre. Shenistavin, dont nous avons été prescrits, qui nous a été ordonné, al ahavato itale, au sujet de son amour. Qu'il soit exalté, ça veut dire itale va à Dieu. Okay? Ahavato itale, ce n'est pas la ahava qui doit être exaltée, mais de lui qu'il soit exalté. Et ça veut dire qu'il y a un commandement d'amour. Il y a un commandement d'aimer Dieu. Bon, de ça nous avons déjà parlé sur Twitter. Mais vous, chenit vonen, benistakel, bemisrotav, et ce commandement consiste dans le fait, Véhou, Shenit Bonen, que nous approfondissions, que nous étudions, jusqu'à arriver à comprendre, Bina, Shenit Bonen, Benistakel, et que nous nous renseignions, d'abord en y réfléchissant, que nous réfléchissions, Bemisota, sur ces commandements qu'il nous a ordonnés. Je vous signale la difficulté qu'il y a là, de principe. C'est que il faut bien rentrer une fois dans la Torah pour recevoir de la Torah ce commandement d'amour qui ne peut être accompli qu'en étudiant la Torah. Il y a une sorte de cercle fermé dans lequel il faut bien rentrer une fois. Vous comprenez le problème ? Et c'est ça qu'il y a derrière notre étude, fondamentalement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes embrayés dans ce système, entre guillemets, c'est pas un système, qu'il y a dans la Torah un commandement qu'il faut aimer Dieu, et comment nous pouvons réaliser ce commandement ? C'est précisément en étudiant la Torah, ou en étudiant le monde. Nous reviendrons sur cette question d'autre part. Donc, je nid bonel, venistakel, vemizotav, vetzivuyav, et c'est les commandements qu'il nous a donnés, tzivuyav, c'est à peu près la même chose, mitzvotav, mitzvah, tzivuy. Alors, nous pouvons peut-être nuancer que les tzivuyav ont traduit habituellement exhortation, plutôt que commandement, et qu'il s'agirait des commandements négatifs, alors que les mitzvot seraient les commandements positifs, d'une lecture positive. Ou Paulota et ses actes. Alors, deux lectures possibles aussi. Ses actions dans le monde, c'est ce que l'on pourrait exprimer par l'action de la Providence dans l'histoire du monde, ou bien le récit de ses actions telles que nous l'avons dans la Torah. Et les deux lectures sont possibles. C'est clair. Parce qu'il faut quand même, c'était d'ailleurs un des sujets d'hier soir, mais qui a été esquivé, il faut quand même se rendre compte que dans le texte de la Torah, il n'y a pas seulement les versets qui concernent les commandements, il y a de longs récits historiques qui sont Torah, autant ou peut-être plus d'ailleurs que les versets qui concernent les commandements. Donc, d'étudier cela, Kedesh Nasigehu, afin que nous puissions atteindre la connaissance de lui, Venit Anek, Beasagato, Tachlit Ata'anouk. Et que nous puissions nous réjouir de cette connaissance, si je devais traduire comme dans l'autre colonne, d'une réjouissance extrême, mais d'une réjouissance absolue. Enfin, d'une joie absolue. Il y a là une indication aussi importante, c'est qu'une étude de la Torah ou une étude du monde qui ne mène pas à cette joie n'est pas authentique. Bon, c'est pas la peine d'analyser trop. Faire cela en tant que, avec un air tellement sérieux que cela indique que c'est une corvée, c'est pas authentique. Le Rav Kook en donne cet enseignement-là sur le verset suivant. Torah Tachem Tmima, Nasvit, Meshivat, Nafesh. Je vous mets le verset au tableau. Torah Tachem Tmima, Meshivat, Nafesh, ça veut dire. La Torah de Hachem est pure, tmima, mais Shivat Nafesh, littéralement, elle ramène l'âme, elle ramène le nefesh. Mais Shivat Nafesh, elle rend l'âme, elle rend vivant. Mais Shivat Nafesh. Imaginez quelqu'un qui est en syncope de joie de vivre, et la Torah lui rend cela. Alors, s'il ne s'agit pas de cela, s'il s'agit d'une étude intellectuelle, et qui finalement qui est de l'ordre de la corvée, même si c'est pour faire des thèses de doctorat d'ailleurs, eh bien, parce que la joie serait celle du concours, pas de. Eh bien, là. Alors ça veut dire que c'est pas la Torah. C'est ce que le Rav lui dit de façon très précise. Si elle n'est pas Meshivat Nafesh, c'est que c'est pas Torah Tachem. Vous voyez, donc, là où on étudie et on est triste, c'est que c'est pas la Torah qu'on étudie. C'est important à comprendre. Il citait d'ailleurs le Chafetz Chaim, qui avait dit quelque chose de très profond là-dessus. Il dit, Torah Tachem Tmima, elle est encore restée comme ça. Personne n'est arrivé à la toucher. Elle est restée Tmima. On n'est pas encore arrivé jusque-là. Bien. Voilà, il y a donc dans cet enseignement de Maïmonide, apparemment rationaliste, et on s'attendrait, enfin c'est une surprise que nous avons là. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette étude cette volupté suprême du vouloir vivre de la créature comme telle. S'il n'y a pas là, c'est plus que satisfaction, s'il n'y a pas la joie d'être créature, c'est qu'on n'a pas encore atteint la connaissance dont il s'agit. C'est le terme de jubilation, si vous voulez, qu'on pourrait employer là. Et je pense qu'il ne s'agit en rien de la satisfaction intellectuelle dont nous parlerait une interprétation philosophique de ce texte. La satisfaction intellectuelle, nous savons ce que c'est. C'est une jouissance pour elle-même, la satisfaction intellectuelle. Il s'agit d'autre chose ici. Il s'agit...